André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur.
Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage dans l'œuvre de Marcel Pagnol avec le deuxième volet de sa trilogie marseillaise. Après Marius, que nous avons vu la semaine dernière, c'est Fanny que nous allons aborder aujourd'hui avec nos deux amis comédiens, Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour André, bonjour Philippe et bonjour à tous.
Et Philippe Merlan, bonjour Philippe.
Bonjour Françoise, bonjour André, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. À la fin de Marius, on se sent très vite orphelin. On a besoin de savoir ce que deviennent ces personnages. On se retrouve dans le bar et on retrouve également les mêmes personnages qui ont quelques semaines de plus. Ça ressemble à une suite. Puis, tout s'accélère et on part dans une autre dimension. Si dans Marius, le sujet, c'est l'amour impossible, la séparation, le destin symbolisé par la mère, le thème de Fanny, c'est l'errance d'une jeune femme, il y a un siècle, dans un monde où rien n'est fait pour elle. Marius est parti depuis un mois. César déprime, et ses amis, Panis, M. Brun et Scartefigue, essaient de l'aider. Il n'a pas encore reçu la lettre de Marius et continue de ruminer son malheur. Fanny ne va guère mieux. Bouleversée par le départ du jeune homme, Honorine s'inquiète beaucoup. Elle voit sa fille terriblement affaiblie et elle est en colère contre Marius. Elle demande à Fanny de ne travailler l'éventaire de coquillages que si sa fièvre retombe. Panis convainc Fanny d'aller voir son ami, le docteur Venel. Comme César, Fanny n'a toujours pas reçu de lettre de Marius. Alors qu'elle se trouve dans le bar de la marine, elle voit le facteur remettre à César un courrier en provenance de Port-Saïd. César lit le journal et agit comme si le courrier de Marius n'existe pas. Fanny l'encourage à le lire. Panis, M. Brun et Scartefille sortent du bar afin de le laisser tranquille. César lit enfin la lettre de Marius et montre un enthousiasme débordant. Il demande à Fanny de la lui relire. Marius fait le tour du monde et aide les savants à réaliser des enquêtes sur l'océan. Il a échappé à une maladie ayant tué un matelot et, n'ayant pu envoyer son courrier aussitôt qu'il l'aurait voulu, car tout l'équipage a été mis en quarantaine, il demande des nouvelles de la santé de Fanny et son mariage avec Panis, ajoutant qu'elle sera sûrement heureuse avec lui. César souhaite que Fanny écrive avec lui sa réponse. Fanny rectifie certains passages que César lui dicte pour éviter de peiner Marius. Ils affirment aller bien et précisent que rien n'est encore décidé pour le mariage avec Panis. Dans le deuxième tableau de l'acte 1, Honorine s'inquiète auprès de sa sœur Claudine de la santé de Fanny et essaie d'amadouer le facteur pour savoir si elle a reçu un courrier de Marius. Elle apprend que ce n'est pas le cas, et ce qui la tourmente encore plus. Panis, très élégant, car il sort du mariage d'un ami, le rend visite. Son ami à son âge vient d'épouser une fille bien plus jeune. Panis souhaite savoir ce que pensent Honorine et Claudine de ce mariage. Honorine trouve bien cette union décente si elle fait le bonheur de cette jeune fille. Panis saisit alors l'occasion pour demander une nouvelle fois la main de Fanny. Il rassure les deux sœurs sur ses finances et sa générosité. Honorine dévoile à Panis ce qu'il sait déjà. Fanny a entretenu une relation avec Marius et elle n'est plus vierge. Panis lui fait comprendre qu'il n'en veut pas à Fanny. Honorine expose à Panis qu'elle lui portera sa réponse le lendemain. Dans l'acte 2 que nous allons aborder, Panis s'en va vaquer à ses affaires et Fanny rejoint sa mère et sa tante. Elle est dévastée. Le docteur Venel vient de lui apprendre qu'elle est enceinte. Sa mère est catastrophée. Selon elle, Fanny doit se marier au plus vite avec Panis pour éviter un scandale de plus dans la famille. Elle fait tout pour connaître, pour convaincre Fanny de l'épouser dans les jours qui viennent. Si elle se marie dans la quinzaine, la paternité de Panis pourrait être crédible. Fanny peut être honnête avec Panis et lui avouer que l'enfant n'est pas de lui. Mais sa mère l'en dissuade. Mais Fanny se rend tout de même visite au marchand. Voici la scène 6 de l'acte 2 avec Panis, Philippe et Fanny, Françoise.
Bonjour ma belle.
Bonjour, maître Panis.
Mais entre donc, voyons.
Dites, Panis, est-ce que je puis vous parler?
Mais naturellement que tu peux me parler.
J'ai quelque chose d'extrêmement grave à vous dire. Mais ne restons pas ici, nous serons sûrement dérangés.
Attends, c'est bien facile. Nous voilà, en pleine tranquillité. Alors, toi aussi, tu as quelque chose de grave à me dire? C'est peut-être la même chose que César?
Non, ce que je veux vous dire, César, ne le sait pas.
Bah, alors, ça me fait de gravité pour aujourd'hui. C'est une journée chargée, mais cette gravité-là, je sais ce que c'est. Ta mère t'a dit que je t'ai redemandé ce matin?
Oui, elle me l'a dit.
Et tu m'as porté ta réponse?
Oui.
Et t'es à l'air tout ennuyé, tu n'oses pas dire un seul mot? Bah, je sais bien pourquoi et je vais te faciliter la chose. Tu viens me dire non encore une fois, hein? Eh bien, tant pis, il ne faut pas te faire de mauvais sang pour moi. Si c'est non, c'est non, et puis c'est non, t'es. Voilà tout. Tant pis, hein? Que faire?
Vous vous trompez, Panis. Je ne viens pas vous dire non.
Est-ce que tu viens me dire oui?
Je viens vous dire que si c'est encore possible, je dirai oui. Mais ce n'est plus possible.
Mais pourquoi?
Parce qu'il y a une chose grave que vous ignorez. Et quand vous saurez cette chose, c'est vous qui ne voudrez plus.
Moi, je ne voudrais plus? Ça m'étonnerait. Dis un peu cette chose pour voir.
Et il me faut beaucoup de courage pour vous dire la vérité, mais cette vérité, je vous la dois. Même si vous devez ensuite me mépriser.
De mépriser? Mais non, mais non. Et d'abord, cette chose-là, je la sais déjà. Et même plusieurs personnes la savent. Deux fois, on a vu Marius sortir de chez toi à la petite pointe du jour. Eh bien quoi? Et après, si quelqu'un venait me dire, maître Panis, vous avez épousé jeune fille que vous n'avez pas été le premier, je lui répondrais, eh bien, dites donc, et moi, est-ce que j'étais vierge? Non, n'est-ce pas? Alors, et ceux qui épousent des veuves ou des divorcés? Qu'est-ce que ça peut faire, ça, après tout? Pour moi, c'est tout le contraire, ça ne me fâche pas, et je vais t'expliquer pourquoi. Quand un monsieur de mon âge épouse une fillette comme toi, ce n'est pas très joli parce que ce n'est pas juste. Elle va lui apporter la jeunesse et la beauté. Elle s'amène toute fraîche et toute neuve, et lui, qu'est-ce qu'il offre en échange? Un intérieur, une situation sociale, une affection, une moustache grise. Je veux dire, grisonnante. Eh bien, ce n'est pas une affaire très honnête. Mais du moment que la jeune fille a eu, pour ainsi dire, un amant, eh bien, ça rétablit un peu l'équilibre. Et je peux me marier avec toi sans perdre ma propre estime. Je me garde toute ma sympathie. Ma sympathie qui m'est personnelle et que j'y tiens énormément. Voilà ma façon de penser.
Vous êtes bon, Panis. Mais il y a autre chose. Quelque chose de plus terrible. Quelque chose qui ne peut pas s'effacer.
Bon, ça te gêne de parler. Mais moi, je vais parler pour toi. Parce que je comprends ce que tu veux dire. Il y a que tu penses toujours à lui et que par délicatesse, tu tiens à m'avertir et à me le répéter. Eh bien, répète-le-moi tant que tu voudras. Après tout, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de la mienne. Je te réponds que d'ici 2 ans, tu seras une femme différente que s'il revient. Nous l'inviterons à la maison et tu seras étonné de voir qu'il n'est pour toi qu'un étranger.
C'est vrai, je pense encore à lui. Mais il y a encore autre chose de plus grave, une conséquence irréparable.
Et quoi?
Ne me forcez pas à le dire, tâchez de comprendre.
Eh bien, tu vois, je tâche, j'essaie, je cherche.
Non, vous ne cherchez pas, vous avez compris, je le vois. Vous prenez l'air de celui qui ne veut pas comprendre parce que je vous fais horreur comme à tout le monde. Je le savais. Et si je suis venue ici ce soir, c'est à cause de ma mère.
Non, mais là, qu'est-ce que je fais semblant de ne pas comprendre?
Allez, vous avez raison, Panis. Ne me prenez pas. Je suis une fille perdue. Perdue. Et je n'ai même plus le droit de me tuer.
Et Digomi, Fanny, est-ce un bijoun? Tu en es sûr? C'est le docteur qui te l'a dit. C'est donc pour ça que tu étais malade?
Ne me méprisez pas trop, Panis. Vous m'avez demandé ce matin... J'en avais qu'à vous dire, oui, mais je n'ai pas voulu vous avertir. Je serais bien heureuse maintenant si je devenais votre femme. Mais j'ai un petit enfant qui me mange le ventre. Il veut naître et il le naîtra.
Et tu accepterais quand même de m'épouser?
J'accepterai d'être votre servante. Je vous obéirai comme un chien et j'aurai tant de reconnaissance que je finirai par vous aimer.
Mais ce petit, tu me le donnerais? Il serait mien? Il aurait mon nom?
C'est la seule chose que je vous demande.
Oh, bonne mère.
Vous me voulez quand même, c'est vrai?
Écoute, Fanny, tu n'as jamais remarqué mon enseigne? Il y a Honoré Panis et en dessous Maître Voilier. Est-ce que tu as remarqué que les lettres sont un peu trop serrées sur la gauche et qu'ils restent au bout comme un espace vide? Eh bien, regarde ça. Regarde. Ça, c'est E-T. Ça, c'est le L-E-U. Ça, c'est I. Ça, c'est feu. Ça, c'est ce S-E-E-U. Et fils. Il y a 30 ans qu'elles sont dans ce tiroir, je n'ai jamais pu les sortir. Attends, Fanny, un peu de précision. Est-ce que tu as dit ton secret à quelqu'un?
Le docteur le sait.
Bon, mais lui ne pourra rien dire puisqu'il est docteur. Et ensuite?
Il y a ma mère et ma tante Claudine.
Celles-là ne diront rien à personne à cause de l'honneur de la famille. Il n'y a personne d'autre qui le sache?
Non, personne.
Bon, et maintenant, quand est-ce qu'il va naître mon petit?
Au mois de février ou au mois de mars.
Mais ça tombe très bien, ça sera donc un enfant de 7 mois. Et alors, à quand l'annonce?
Comme vous voudrez.
Ah ben le plus tôt possible, à cause de l'enfant. Et si on faisait ça dans la quinzaine?
Vous dites bien la vérité, Panis. Avez-vous bien réfléchi avant de dire oui? Vous allez sauver mon petit bâtard?
Mais Fanny, puisque nous sommes d'accord, je vais te dire tout. Et tu comprendras que je ne fais pas un sacrifice. Lorsque j'ai épousé ma pauvre Félicité, elle avait ton âge et moi j'en avais guère plus. Nous avions acheté ce magasin en monnaie de papier, tu comprends? En signant des traites à l'avance. Oh, pas cher, bien sûr, à ce moment-là, le magasin ne valait pas grand-chose. Nous avons eu d'abord une ouvrière, puis deux, puis cinq, puis 10, et donc ça, jusqu'à 30. Et l'argent rentrait bien. Et alors, au bout de 7 ans, un beau jour, j'ai dit à ma femme, oh, Félicité, tu vois comme notre magasin est beau. Oui. Il est beau. Le commerce va très bien. Oui, il va très bien. Eh bien, écoute, Félicité, l'argent et le magasin ne l'emportera pas sous la terre. Bien sûr qu'elle me dit. Et si nous faisions un petit? Alors, elle devient toute rouge, peu chère. Elle se cache un peu la figure et elle me fait. Il y a longtemps que j'y pense, mais je n'osais pas t'en parler. Mais alors, basta. Ma pauvre Fanny, impossible de faire un enfant. Je ne te dirai pas tous les docteurs qu'on a vus. Toutes les sources minérales, tous les cierges, tous les pèlerinages, toutes les gymnastiques suédoises. Et je gaze, naturellement, je gaze. Et voilà la vérité. Pendant longtemps, nous avions eu peur d'avoir un petit. Et puis, quand nous l'avons voulu, nous ne l'avons pas eu. Nous avions dégoûté le bon Dieu. Alors, une véritable folie m'a pris, la folie des enfants. Depuis ce moment-là, chaque fois que j'ai vu dans la rue un grand couillon avec un Panama qui pousse une petite voiture, je ne peux pas t'imaginer comme j'ai été jaloux. J'aurais voulu être à sa place, avoir cet air bête et ces gestes ridicules. J'aurais voulu faire ainsi, fond, fond, fond. C'était une grande souffrance. Et Félicité, je la regardais de travers. Et pour la moindre des choses, nous disputions. Surtout à table, je lui disais... C'est bien la peine d'avoir un estomac comme deux monuments et de ne pas pouvoir faire un enfant. Et alors elle me répondait, si tu n'avais pas tant bu de picon et de ricolette, peut-être tu serais bon à quelque chose. Et enfin, petit à petit, nous nous sommes habitués à ce désespoir. Mais le magasin ne nous intéressait plus du tout. Nous n'avons vendu que l'article courant. Je n'ai plus pris la peine de dessiner des voiles spéciales selon la personnalité et le tempérament de chaque bateau. Des voiles merveilleuses, des voiles signées de mon nom, comme des peintures de musée. Et alors, pendant que je jouais aux cartes dans les cafés, comme un imbécile, les autres en profitaient. Certains, messieurs Renault, Dion Bouton, Peugeot et Toudy Canty, se sont mis à faire des moteurs. Et voilà pourquoi notre beau vieux port est tout empuanti de pétrole. C'est parce que Félicité était stérile, tout simplement. Et voilà pourquoi ce magasin ne travaillait plus comme autrefois. C'est parce que je n'avais personne à nourrir. Mais maintenant, cette bonne mère, ça change tout. Une femme et un petit, à moi.
Oh, vous êtes un bon, je vous remercie. Mais pensez-y encore 2 jours avant de me donner votre réponse.
Mais pourquoi? Tu recules déjà? Tu attends une lettre de Marius?
Je n'attends plus rien de personne, sauf de vous. mais je ne voudrais pas que vous engagiez votre parole sur un mouvement de pitié.
Pitié ? Qu'est pitié ? Alors tu n'as pas compris ce que je t'ai dit ? Fanny, je te jure que jamais un homme n'a fait une action aussi égoïste que moi en ce moment. Je me fais plaisir, voilà la vérité. Ces enfants, bien entendu, il vaut mieux se les faire à soi-même. Mais quand on attrape la cinquantaine, qu'on n'est pas bien sûr de réussir et qu'on en trouve un tout fait, eh bien, on se le prend sans avertir la population. Je ne te pose qu'une condition, Fanny. C'est que tu te ne dises à personne, même pas à ta mère, que tu me l'as dit. Comme ça, je pourrais prendre l'air que cet enfant est à moi devant tout le monde. Tu ne le diras pas, hein.
Je ne dirai rien.
César tente de convaincre Panis et Fanny de ne pas se marier et d'attendre le retour de Marius. Mais les deux le persuadent qu'il en est mieux ainsi, d'autant plus que la dernière lettre de Marius évoque la vie sur la mer. L'enfant sera riche, il pourra se construire un avenir et son père sera présent. Panis affirme à César qu'il sera le parrain de l'enfant pour pouvoir bénéficier d'un lien fort avec lui. Dans l'acte 3, le temps a passé et le fils de Panis et Fanny, désormais mariés, a un an. Panis s'inquiète pour un rien et presse toujours le docteur Venel de venir alors que l'enfant se porte comme un charme. Fanny s'occupe des affaires courantes de son époux et est devenue une véritable femme d'affaires. Mais Marius revient et se rend chez Panis. Voici un deuxième extrait, les retrouvailles de Fanny et Marius dans la scène 3 de l'acte 3. Fanny Françoise et Marius Philippe.
N'aie pas peur, Fanny, c'est moi, c'est Marius.
Tu es de retour ?
De passage, ne t'inquiète pas. Je veux simplement te dire bonjour en passant, ou plutôt bonsoir, si ça ne te dérange pas. Je me demande s'il ne faut pas t'appeler madame et te dire vous, mais...
Ce serait des ridicules.
Ah, tu as tellement changé.
Je vieillis.
À ton âge, vieillir, ça s'appelle embellir. Ton mari n'est pas là ?
Il dort. Nous sommes allés dîner en ville ce soir. Et il faut qu'il se lève de bonne heure demain matin. Tu boirais bien un verre de quelque chose.
Volontiers. Mais j'aurais aimé trinquer avec lui pour qu'il ne se fasse pas des idées et puis le revoir, lui parler.
Tu pourras le voir demain, certainement.
C'est pas possible. Je repars pour Paris à 5 heures. Il faut que je sois à la gare avant 4 heures. Je vais à Paris, ma mission.
Ton bateau est revenu ?
Non, il est encore à Tahiti. Figure-toi que nous avons traversé un cyclone pendant des heures, tout a balcé. Et plusieurs appareils océanographiques en ont pris un coup. Alors, ces appareils, on ne peut pas les réparer n'importe où. Il faut les ramener à ceux qui les ont faits, parce que c'est de la précision, c'est scientifique. Ça marche, l'électricité, un pastis terrible. Alors, on les a transbordés sur un contre-torpilleur qui rentrait à Toulon, avec une mission de 3 hommes et le second pour les convoyer. Et moi, j'ai fait partie de la mission parce que j'ai demandé. Je me languissais.
Tu te languissais de revoir ton père ?
Oui, mon père, Marseille, Escartefigue, toi, tout le monde, quoi.
Et qu'est-ce qu'il t'a dit ?
Qui ?
Ton père.
Je ne l'ai pas encore revu. Je me suis arrêté ici en passant quand j'ai vu ta fenêtre éclairée. Mais maintenant, je vais aller dîner avec lui. Après, nous retournerons à Tahiti avec les appareils.
Tu as vu les îlots sous le vent ?
Naturellement, c'est très joli. C'est des montagnes qui sortent de la mer avec des arbres magnifiques. Il y a des gros crabes qui montent jusqu'à un des cocotiers pour faire tomber les noix de coco. Et puis, il ne fait jamais froid. Tout le monde est presque nu. Il y a beaucoup de belles filles et des beaux hommes qui jouent de la guitare. Ils mangent des poissons et des fruits, des beaux fruits qui ont le goût de trémantine. Et puis, des îles comme ça. Et il y en a beaucoup. En fin d'un 6 mois, le bateau rentre et mon engagement est fini.
Et alors, que feras-tu ?
Je ne serai pas encore... Je verrai.
Tu n'as plus cette folie de naviguer ?
On ne peut pas dire que je ne l'ai plus. Mais les folies, tu sais, c'est toujours pareil. Dès qu'on a ce qu'on voulait, on se demande un peu pourquoi on l'a voulu.
Alors, tu n'es pas heureux sur la mer ?
Toujours heureux quand on est là où on est, où on a voulu aller. Et si on disait qu'on est malheureux, ça voudrait dire qu'on a été bête. Non, je ne suis pas malheureux, bien sûr. Mais je me suis rendu compte que si j'étais resté ici, je ne serais pas malheureux non plus. Et toi, tu es heureuse ?
J'ai un bon mari.
Et une belle maison.
Oui, une belle maison.
Ta mère va bien ?
Oui, très bien. Honorine n'a pas voulu qu'elle reste à la poissonnerie. Et pour les coquillages, elle a mis une commise. Alors, maman habite avec nous.
Ouais, comment ça, tu es tranquille, hein, pour faire marcher la maison. Alors voilà, je vais dîner avec mon père, je reprendrai le train pour Paris cette nuit.
Marius se rend compte que Panis n'est pas dans la maison et il pose la question à Fanny.
Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, hein ?
parce qu'en l'absence de mon mari, il n'était pas honnête de te recevoir dans sa maison.
Non, pourtant, tu m'as reçu quand même.
Parce que tu ne le savais pas.
Et tu ne me l'as pas dit parce que tu as eu peur que je te parle du temps passé et que je te fasse une scène de désespoir.
Oh non, tu étais bien trop content de partir.
Tu m'avais dit que tu voulais épouser Panis.
Et tu l'avais cru.
Ouais, peut-être parce que ça m'arrangeait de le croire, ça c'est vrai, mais je l'ai cru.
Si ça t'arrangeait de le croire, c'est que tu n'étais pas désespéré de me quitter. Je ne vois pas pourquoi tu serais au désespoir maintenant.
Ce qui se passe dans notre tête, on ne le comprend pas toujours. Je veux dire, pas tout de suite. Avec Pigoiseau qui me racontait ses histoires et ses sirènes de bateau qui m'appelaient 10 fois par jour, et même qui me réveillait la nuit, je m'étais fait des imaginations. Et pour te dire la vérité, pendant les premiers mois, j'étais content.
Je sais. Ton père m'allumait, première lettre. Tu lui disais de me donner bien le bonjour. Ça m'a fait plaisir.
Je ne savais plus que dire. Je n'osais même pas penser à toi. J'avais mauvaise conscience. Et puis, c'est justement aux îles que ça m'a pris. Le soir, l'équipage allait sur les plages. Il y avait les chanteurs, des guitares et des belles filles. À partir du troisième jour, je suis resté à bord. J'entendais les musiques et je pensais à toi. Je te voyais derrière tes coquillages. Je te voyais courir le long du quai, j'entendais claquer tes petits sabots.
Marius, c'est trop tard maintenant, ne me dis plus rien.
Mais je te voyais partout, partout, partout. Et puis un jour, juste au large des Carolines, comme nous relevions les récifs de corail, il m'est arrivé une chose terrible. Je n'ai pas pu penser à toi. J'avais oublié ta figure, je te cherchais, je ne te trouvais plus. Je me prenais la tête entre les mains, je fermais les yeux de toutes mes forces. Je voyais du noir, je t'avais perdu. Alors je suis devenu fou. J'ai vite écrit à mon père pour qu'il m'envoie une carte postale, celle où on voit la terrasse du bar. Je lui avais dit que c'était pour avoir un souvenir du bar. Mais la vérité, c'était pour toi. Parce que debout, derrière ton inventaire, et cette photographie, tu ne peux pas t'imaginer comme je l'ai attendue. Je comptais les jours même, les heures. Enfin, en touchant Papette, j'ai trouvé le courrier de France. Dans la lettre de mon père, il y avait la carte postale et une autre photographie. C'était celle de Thanos, devant la mairie. Alors, je les ai déchirés en tout petits morceaux et je les ai jetés dans le vent des îles et j'ai compris que j'avais gâché ma vie.
Va, tu en trouveras une autre. Il y en a beaucoup de plus belles que moi.
Oh non, la plus belle, c'est toujours toi et ce sera toujours toi. Dis-moi la vérité, tu es vraiment heureuse?
Je te l'ai dit, j'ai un bon mari.
Mais tu l'aimes d'amour?
Je l'aime bien.
Je peux te dire la même chose de mon père? Je l'aime bien.
Ça suffit pour vivre ensemble.
Tu veux que je te dise ce que j'imagine?
Non, je ne veux pas le savoir.
Je m'imagine que tu ne l'as pas oublié. Je m'imagine que si je reviens dans 6 mois...
C'est trop tard, Marius. Trop tard.
Fanny, maintenant je sais que j'étais un imbécile et que cet amour ne me passera jamais. Non, jamais. Jamais je ne pourrai aimer une autre femme et sans toi... Ma vie est finie. Je ne te dirai pas que je vais aller me noyer, non. Mais quand je te vois dans cette maison, une douleur qui me serre les côtes, il me semble que mon cœur va s'arrêter. Alors, tu as tout oublié?
Tu sais bien, Quentin.
Bah alors?
Il n'y aura plus rien à faire trop tard.
Écoute, il y a des gens qui divorcent. Ça existe, le divorce. Ça n'est pas déshonorant. Monsieur Caderousse, l'adjoint au maire, il a divorcé de sa femme. Ils sont restés bons amis.
Je sais. Mais il n'avait pas d'enfant.
Et alors?
J'en ai un.
Toi? Tu as un enfant?
Oui.
Quel âge a-t-il?
Oh, c'est encore un bébé. Ton père ne te l'a pas écrit?
Non, mais je me demande pourquoi.
Il a pensé que ça ne t'intéressait pas.
Ou peut-être qu'il n'a pas voulu me donner du regret?
Peut-être.
César arrive subitement chez Panis, informé par des clients de la présence de Marius. Il le sermonne, dans un premier temps, de ne pas avoir prévenu et de ne pas être allé le voir. César veut qu'il rentre avec lui et qu'il dise au revoir à Madame Panis. Marius s'agace auprès de son père que celui-ci ne lui ait jamais fait part de l'arrivée de l'enfant. Panis revient finalement chez lui et voit Fanny, César et Marius ensemble. Le ton monte entre Marius et Panis. Marius réclame à Panis qu'il lui laisse Fanny et l'enfant. Il reconnaît avoir fait une erreur de jeunesse, mais observe que lui et Fanny s'aiment et que l'enfant est le leur. Panis s'insurge et propose à Fanny de décider elle-même ce qu'elle veut. Toutefois, il ne reviendra pas en arrière pour l'enfant qu'il estime être le sien. César, Fanny et Marius se retrouvent sans Panis. Marius, courroucé, demande
Mais nom de Dieu, qui est le père, là? Celui qui a donné la vie ou celui qui a payé les biberons?
César lui répond, le père, c'est celui qui aime.
Tu étais le père d'un petit bâtard, dont la naissance était un désastre pour une famille. Le père d'un enfant sans nom, porté par une pauvre fille dans la honte et le désespoir. Un pauvre enfant de dispensaire ou d'hôpital. Où est-il, cet enfant? Il n'existe plus, ce n'est pas le mien. Le mien, il est né dans un grand lit de toile fine, entre la grand-mère et les tantes. Il y avait deux grandes armoires pleines de langes et de robes et de lainages tricotés par les cousines de Martigues. Et les grandes-tantes de Vaison et la marraine de Marzague et mon beau-frère de Cassis, il était venu tout exprès pour entendre le premier cri. Et de Marseille jusqu'en Arles, partout où vivent les parents de mon mari, il avait une grande joie dans 30 maisons parce que dans le lit de Maître Panis, un tout petit enfant venait de naître, tout juste à la pointe du jour, le matin des cloches de Pâques. Va, Marius, tu as les dents pointues, mais n'essaie pas de mordre des pierres. Cet enfant, tu ne l'auras pas. Il est planté en haut de famille, comme une croix sur un clocher.
Alors toi aussi, tu me trahis.
Trahir? Ton amour? Non, Marius, je ne l'ai pas trahi. Puisque ton père est là, puisqu'il me protège contre notre folie, je peux tout te dire. Marius, je t'aime toujours. Je t'ai comme avant, peut-être plus encore, et chaque matin, je vois ta figure dans le sourire de mon fils. Quand tu as paru tout à l'heure devant cette fenêtre, j'ai cru que je tombais vers toi. Je ne pouvais plus respirer. Mes jambes ne me portaient plus. Si tu m'avais prise par la main sans dire un seul mot, je t'aurais suivi n'importe où. Mais après, Marius, et mon fils?
Il est nôtre. Tu n'as qu'à le prendre.
Je n'ai pas le droit, ni devant la loi, ni devant le bon Dieu. Parce que j'étais perdue, Panis m'a sauvée. Il m'a donné son nom. Il m'a rendu le respect que j'avais perdu. Et pendant la nuit où l'enfant est né, je tenais sa main et j'enfonçais mes ongles. Le docteur lui dit... Elle va vous faire mal. Alors j'ai lâché cette main, mais il me l'a vite rendue. Il m'a dit, griffe-moi, borde-moi si tu veux. Plus tu me feras mal et plus ce petit sera mien. Alors, toute la nuit sans le vouloir, je lui ai enfoncé mes ongles. Il en porte encore la marque. Ces marques, c'est lui qui les a, ce n'est pas toi. Marius, va-t'en sur la mer, c'est là que tu as voulu aller. Laisse-moi ici avec un autre enfant. Et si ça peut te consoler... Pense que, chaque soir, il y a une femme qui pense à toi, une femme qui voudrait s'étendre contre toi, sentir l'odeur de tes cheveux et s'endormir dans ta chaleur.
Fanny.
Une femme qui voudrait s'éveiller le matin avec ton bras autour, te recoiffer quand tu t'éveilles et mettre sa main sur tes lèvres, encore toute molle de sommeil.
Marius veut s'élancer vers elle, son père le retient. Entre Panis, il est très pâle. Il paraît épouvanté. Le bébé est malade. Il a la fièvre, 39,5. Il accapare soudain l'attention de tous, mais quand le médecin arrive, il a en fait 37,2. C'était une erreur de lecture. César convainc Marius qu'il est temps de partir et accompagne son fils à la gare. La conclusion de la pièce ne fera pas connaître l'issue de la situation. César, qui sera écrit directement pour le cinéma, terminera de raconter l'histoire de ces personnages. Et nous verrons ceci la semaine prochaine. Merci Françoise, merci Philippe. À très bientôt donc pour la semaine prochaine avec des extraits de César. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. Au fond, voyez-vous, le chagrin, c'est comme le ver solitaire. Le tout, c'est de le faire sortir. Elle est de Marcel Pagnol dans Fanny. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de notre radio altitudefm.com et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité joué, mis en scène, éclairé, sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.